La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Bonjour et bienvenue. Comme tous les vendredis, des chercheurs et acteurs de la culture scientifique d'horizons divers se retrouvent dans le club des têtes au carré. Au menu des discussions aujourd'hui, les effets de la musique sur notre corps et notre cerveau, un hommage aux générations de chercheurs qui, siècle après siècle, construisent notre savoir et une causerie sur ce que disent nos déchets de notre époque. Et à la une de la science, bonjour Axel Villard.
Bonjour Daniel.
La polémique autour du fémur découvert avec Toumaï, le plus vieil ancêtre de la lignée humaine, continue. La une de la science prend des allures de feuilleton.
Oui, le paléoanthropologue Roberto Macchiarelli, qui est à l'origine de la polémique, et Aude Bergeret, qui a redécouvert le fémur en 2004, sont à la une pour répondre aux propos de Michel Brunet, tenu la semaine dernière à ce micro.
Vous pouvez réagir sur Twitter avec le mot-clé « l'attaque ». Voilà pour le programme de cette tête au carré. Réalisé par Fanny Beauhuon et préparé par Thomas Kalevitch.
La tête au carré, le club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Invité du club de la tête au carré ce vendredi, Catherine Bréchignac, David Val, Victor Stoccia et Aline Richard. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Catherine Bréchignac, physicienne, vous venez de publier « L'irrésistible envie de savoir » aux éditions Cherche Midi. Vous aviez envie de mettre en lumière la démarche scientifique et les méandres qui permettent d'aboutir parfois aux plus belles découvertes.
Oui, parce que la vérité scientifique se découvre petit à petit avec des essais et des erreurs, comme on va le voir tout à l'heure, je pense,
oui.
Avec ce fémur. Et donc, c'est important de montrer quelle est la démarche scientifique et pas toujours raconter l'histoire de la science, mais de montrer vraiment comment les chercheurs, comment les hommes et les femmes font progresser cette connaissance.
Avec ces errements, cet tâtonnement.
Avec ces errements, cet tâtonnement. C'est un peu parfois une enquête, comme une enquête policière. Et je crois que ça, c'est très important de le montrer.
Aline Richard, journaliste à The Conversation France, dont la tête au carré est partenaire. Aujourd'hui, vous avez invité Victor Stoccia, je vais y arriver, à écrire un article passionnant sur les effets de la musique sur notre cerveau et sur notre corps. Alors, il est avec nous, Victor Stoccia. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lui donner la parole ?
Bien, en fait, on dit tout et un peu n'importe quoi sur les influences des sons organisés, comme les appelle Victor, sur notre cerveau, sur notre bien-être corporel, sur notre âme, sur notre psyché. Et l'article fait le point et laisse toutes les portes ouvertes finalement, puisqu'il nous parle des hypothèses, il nous donne les références scientifiques sur ce qui est avéré, sur ce qui est possible. Et c'est intéressant.
Ouais. Alors, il est ethnomusicologue et anthropologue, Victor Stoccia. C'est vrai qu'en vous lisant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de recherches, mais encore pas tellement de certitudes, finalement. Pardon.
Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de certitudes, et d'autant plus quand on ouvre la porte pour considérer les autres cultures de la planète, la manière dont elles pensent l'effet des sons et de la musique sur le corps, on s'aperçoit qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de manières d'envisager cela, et c'est l'apport de l'anthropologie à cette question.
Alors, on va en discuter, on va voir que c'est passionnant, et puis nous terminerons ce club des têtes au carré avec un sale discours, celui de David Val. Sale discours, c'est le titre d'un spectacle que vous allez jouer à la Maison de la Poésie, sur les déchets. C'est une réflexion sur ce que notre société considère comme propre ou sale.
C'est une réflexion autour de cette question que je me suis posée au cours de l'enquête durant laquelle j'ai commencé à écrire ce livre. Pourquoi, si l'homme est, dit-on, de plus en plus propre, le monde, lui, semble de plus en plus sale.
Ouais, tout un programme, on en parlera en fin d'émission avec vous. Voilà pour le thème du jour et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr. Le feuilleton du fémur découvert avec Toumaï. Suite et sûrement pas fin aujourd'hui à la une de la science. Le crâne de Toumaï, vieux de 7 millions d'années, découvert au Tchad en 2001, est considéré aujourd'hui comme le premier représentant connu de la lignée humaine. Mais un fémur découvert sur le même site et dont aucune publication ne fait mention jusqu'à aujourd'hui est au centre d'une polémique depuis plusieurs semaines. Appartient-il à Toumaï ? Remet-il en cause sa bipédie et donc sa place de premier ancêtre de notre lignée ? La semaine dernière, à ce micro, le paléontologue Michel Brunet, qui est à l'origine de la découverte de Toumaï, s'est expliqué. Et c'est aujourd'hui ses détracteurs qui ont souhaité s'exprimer dans l'émission, Axel Villard.
Oui, Daniel, nous sommes dans ce studio avec le paléoanthropologue Roberto Macchiarelli. Bonjour.
Bonjour.
Et Aude Bergeret, directrice du Muséum d'Histoire Naturelle d'une grande ville française dont vous avez souhaité qu'on taise le nom. Bonjour.
Oui.
Roberto Macchiarelli, vous êtes professeur de paléontologie et de paléobiologie à l'Université de Poitiers, rattaché au département Hommes et Environnement du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et c'est vous qui avez sollicité l'équipe de La Tête au Carré pour répondre aux propos de Michel Brunet à ce micro la semaine dernière. Qu'est-ce qui a motivé cette demande ?
Je dirais là plutôt qu'un positionnement en tant que détracteur, pas du tout, non. Il s'agit de quand même un peu changer cette culture de l'embargo, de l'antipartage de l'information. Nous avons voulu que déclencher une réflexion sur une découverte importante, un peu hasardeuse, comme il arrive souvent, qui pourrait nous amener beaucoup plus loin dans l'identification de l'identité elle-même du statut de hominine dans la nature. Donc c'est un débat déclenché.
On va y venir par la suite, mais vous avez souhaité surtout répondre à certaines accusations tenues contre vous à ce micro au sujet d'une fouille en Éthiopie en 2001. On vous écoute à ce sujet.
Oui, et Michel Brunet, dans la presse, si on la regarde avec attention, a prononcé différentes hypothèses et versions qui sont même contradictoires. À la fin, sur votre plateau, s'est référé à des fouilles en Éthiopie. Je n'ai jamais participé à des fouilles en Éthiopie dans le sens strict du terme. Et je dois démentir formellement la véridicité de cette accusation et je l'invite à une attention majeure pour éviter de se décrédibiliser. J'ai des documents au niveau national et international. Pour le faire, je suggère de ne se pas lancer dans un de rester factuel sur l'histoire des fémurs, c'est beaucoup plus intéressant.
Alors justement, c'est ce qu'on va faire, rester factuel sur le fémur. C'est bien que vous ayez pu répondre à cette accusation qui était un petit peu plus personnelle à votre encontre. Voilà la parenthèse entre guillemets et parenthèse entre guillemets, faut le faire. Enfin, en tout cas, c'est refermé et on va se concentrer peut-être un peu plus sur, parce que là, on est vraiment au cœur de la science et à la fois de l'histoire de l'humanité et aussi de la façon dont la science est en train de se faire. Alors ce fémur, pourquoi on en a entendu parler que si tardivement et qu'est-ce qu'il nous permettrait de savoir de plus ?
Et c'est pas exact ce que vous dites, dans le sens où la presse n'a pas parlé de ça, mais chez les spécialistes, on parle depuis 2004, donc c'est un sujet sensible, traité dans la littérature internationale, ce que nous a finalement obligé en quelque sorte à cette réflexion que nous avons ouvert, pas avec la presse, mais dans un colloque CNRS de réflexion sur l'origine de l'homme, un appel à contribution lancé en 2016. Donc j'ai adhéré à cette initiative. J'avais siégé pour 4 ans dans un comité national CNRS et j'ai retenu intéressant de parler de ça dans le périmètre. C'est la presse qui est venue après.
Roberto Macchiarelli, je pense que pour que tout le monde comprenne l'histoire, le mieux ce serait de la raconter. Et donc on va se tourner vers Aude Bergeret. En 2004, vous étiez étudiante en DEA dans le laboratoire de Michel Brunet.
C'est ça.
Toumaï a été découvert en 2001, donc c'est 3 ans après. Mmh. Et vous redécouvrez ou découvrez, et tout dépend des versions, cet os. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Alors en fait, j'avais du matériel à ma disposition pour l'étude que je menais, qui était une étude, comme l'a dit Michel Brunet la semaine dernière, en taphonomie. Donc pour les gens qui n'ont pas écouté, en gros, c'est essayer de repérer sur les ossements toutes les traces qui permettent de savoir ce qui est arrivé à l'os entre le moment où l'animal est mort et le moment où les paléanthropologues ou paléontologues le retrouvent. Et donc j'avais ces ossements en étude et il se trouve que dans l'observation de ces altérations, j'avais des difficultés à partir de la littérature à interpréter certaines de ces traces. Et il se trouve qu'à cette époque-là, personne dans le laboratoire était capable de m'aider. Donc je butais un peu sur mon sujet. Et Monsieur Macchiarelli, nous ayant donné des cours l'année d'avant en paléoécologie et taphonomie, c'était la seule personne dans le laboratoire qui pouvait débloquer cette situation. Et donc je lui ai proposé de venir me donner, de savoir s'il acceptait de me débloquer, de me dire si ce que j'interprétais sur les ossements était réel. Et cet os faisait partie de l'assemblage.
Et donc, pour qu'on comprenne, à ce moment-là, ce fémur, vous ne pensez pas que c'est un fémur d'origine humaine ou appartenant à un ancêtre humain?
Non, parce que moi, dans la liste que j'ai, il a un numéro d'inventaire qui d'ailleurs est à 3 numéros du crâne de Toumaï, donc vraiment très proche, donc probablement trouvé le même jour, et ça, on en a eu la preuve bien plus tard. Il est noté comme indéterminé, que ce soit au niveau du type d'os et au niveau du taxon.
Il était un peu passé inaperçu, hein, finalement.
Il était passé inaperçu, effectivement. Il était quand même, c'était un des plus gros ossements que j'avais dans mon étude qui était indéterminé.
Donc il pique votre curiosité.
Il pique la curiosité parce qu'il a une courbure particulière, parce qu'il y a des traces taphonomiques très intéressantes dessus, et il y a un remplissage particulier qui m'a fait effectivement arriver à l'idée de le trancher de faire des analyses dessus. Mais il avait intrigué déjà plusieurs personnes c'était une belle pièce.
Vous en avez eu l'idée, vous ne l'avez pas fait. Ce fossile n'a pas été tranché.
Vous l'avez vu la semaine dernière,
il était encore en un seul morceau. Ce qu'il en restait encore en un seul morceau. Roberto Marchiarelli, vous êtes donc invité à venir ausculter de près ce fossile. Que se passe-t-il?
Oui, hautement invité, je dois dire, j'avais refusé une première invitation de la part d'un des directeurs de stage, justement pour des raisons de discrétionnalité. Le chantier Tchad n'était pas mon chantier, quoique je suis remercié dans la première publication sur la revue Nature.
Ne nous donnez pas trop de détails techniques. Allez-y sur l'histoire. Dites-vous que nous, c'est vraiment savoir ce que vous avez découvert sur cet os.
J'ai mis 15 secondes à identifier ce fémur. Je vais vous demander son origine. C'est un peu mon métier quand même.
Ouais. Donc pour vous, tout de suite, c'est un fémur humain ou en
non,
tout cas,
c'est pas humain. De primate. C'est un fémur de primate.
De primate, oui.
C'est une diaphyse, un morceau, un bon morceau, 25 cm, qui a passé inaperçu quand même. Oui, c'est un fémur de primate. J'ai mis 15 secondes.
D'accord. Aude Bergeret, ça veut dire qu'en 2002, les équipes de Michel Brunet sont passées à côté de ce fémur, alors qu'en 15 secondes, M. Macchiarelli a vu que c'était un os de primate. C'est ça qu'il faut retenir?
Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que, comme l'a dit Michel Brunet, des ossements, ils en ont vu, ils en ont beaucoup. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Moi, je ne suis pas à la place des équipes. Je ne sais pas comment est-ce que cette pièce a circulé dans les mains des équipes. Probablement qu'elle a été vue si elle a été trouvée le même jour, parce que j'imagine que quand ils sont rentrés de mission avec cet assemblage, ils ont regardé effectivement tout ce qui avait été trouvé. Mais encore là, je m'avance, je ne peux pas le dire. Mais
vous avez pu terminer votre étude de ces échantillons?
Alors, je suis partie au Tchad après justement que M. Macchiarelli, parce qu'à partir du moment où il m'a amenée à la détermination en me posant des questions, parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé aussi, je suis partie au Tchad, donc j'ai pu compléter ma formation avec un encadrant sur place, et quand je suis revenue, que j'ai voulu repasser les ossements à la lumière de ce que j'avais appris, effectivement j'ai pas pu les revoir parce que je ne les ai plus trouvés dans le laboratoire.
Le fossile
non plus, mais
disparu.
Les autres aussi. Oui.
Tout votre matériel d'étude avait disparu,
c'est
le
ça.
Temps de ce voyage d'étude au c'est Tchad. Ça.
Roberto Macchiarelli, donc vous avez eu ce fossile dans les mains quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez fait après? Pourquoi on n'en entend parler que maintenant, j'ai envie de dire, dans la presse?
Justement, le débat restait très confiné dans le domaine scientifique. Des collègues s'interrogent régulièrement. L'attribution de cette nouvelle forme de vie extraordinaire de Sahelanthropus est disputée. Même son identité peut être rattachée à une autre forme, qui est celle d'Ardipithèque, qui aurait une priorité du point de vue formel. Je pense que par contre, ces spécimens pourraient apporter effectivement une preuve définitive de l'identité du Sahelanthropus et de son statut dans la nature, de sa position dans l'évolution des primates en général.
Donc vous reprochez aujourd'hui aux équipes tchadiennes de ne pas avoir publié de résultats concernant ce fémur ?
Absolument.
Est-ce que le temps de la recherche, parfois, n'est pas plus long que ces 15 ans qui se sont passés ?
Tout à fait. Mais tenez en considération que Toumaï a été publié, et l'article est soumis 6 mois, exactement 6 mois, après l'identification sous le, de Michel Brunet au Tchad en septembre 2001. Et Abel avait été, a pris environ un an et demi pour être
un autre
publié,
fossile marquant pour la lignée humaine,
etc. Michel a voulu publier les choses, surtout l'a bien fait. Là, ça fait 14 ans et surtout, il n'y a pas que le temps. Il y a le négationnisme. Il y a une démentie pour plusieurs années et de l'existence de cet objet qui est peut-être embarrassant.
Ce que vous reprochez, c'est vous accusez d'avoir un peu mis sous le tapis ce fossile, parce que comme si on s'était un peu reproché de ne pas l'avoir tout de suite identifié, et plutôt que de reconnaître cette erreur, on a préféré ignorer son existence.
Oui, et j'ai eu le temps de réfléchir que peut-être dans un autre pays, par exemple aux États-Unis, en Angleterre, une histoire de ce type ne serait jamais produite.
Alors, vous parlez dans la presse quand même de fraude intellectuelle, pardon, de mensonges, de dissimulation de preuves. Est-ce que vous avez saisi le comité d'éthique du CNRS, par exemple ?
Tout à fait. Je saisis le comité d'éthique. Le comité d'éthique est un organe très important et qui est tout à fait ses positions dans la réflexion et jamais dans l'intervention. Je n'ai pas un jugement sur ça, mais nous avons en France pas mal d'institutions qui sont là pour afficher un positionnement, mais pas pour aller trop loin dans l'application concrète.
Alors, je voudrais profiter, c'est une coïncidence, hein, on n'a pas monté le plateau exprès pour ça, mais de la présence de Catherine Bréchignac, qui a été présidente puis directrice du CNRS.
Non, j'ai été directrice générale puis présidente.
Oui, alors, dans l'instant,
c'est assez longtemps à la tête
vous
du CNRS,
et
c'est même moi qui ai remis en place le comité d'éthique avec Jean-Pierre Bourguignon comme présidente.
Alors,
donc, je suis tout à fait très très sensibilisée à l'éthique.
Alors, vous pouvez à la fois réagir à cette histoire en particulier, et puis plus généralement, on a l'impression que pour une fois, on assiste à des débats de scientifiques qui parfois ne sortent pas dans la presse. Mais là, on se rend compte quand même que la science, c'est aussi une affaire d'hommes qui ne sont pas toujours d'accord. Il y a aussi des égos à gérer, hein, dans tout ça, on le sent.
Oui. C'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs, l'irrésistible envie de savoir, parce qu'on a envie de savoir, les scientifiques ont envie de savoir, on a tous envie de savoir, et donc on ira jusqu'au bout. De toute façon, quoi qu'il arrive, on prendra le temps qu'il faudra, il faut prendre le temps de penser, c'est ma conclusion, et on ira jusqu'au bout parce que la cohorte des scientifiques ira jusqu'au bout. S'il y en a certains qui font des erreurs, tant pis, on avancera quand même. Donc je crois qu'on est dans cette histoire un peu tous dans le même bateau. Il faut prendre du temps, il faut prendre le temps de discuter, et les discussions entre scientifiques ont été complètement épiques. On en a eu à l'Académie des sciences qui était absolument affolante, sur l'atome par exemple, on en a eu sur la génération spontanée, on en a eu même sur le climat. Enfin, on a toujours de toute façon énormément de discussions. Je crois que c'est vraiment très important de les avoir. Alors, elles restent parfois confinées, effectivement, comme vous l'avez dit, dans le milieu scientifique, mais parfois elles sortent du milieu avant d'avoir été complètement, je dirais, décortiquées et interprétées. Bon, à mon sens, c'est pas très grave. Après tout, on a le droit de se tromper, on a le droit d'avancer, de prendre des chemins de traverse. Et j'aime beaucoup la phrase de Victor Hugo qui dit la science va se raturant elle-même.
Ah, effectivement. Alors, ça n'est qu'une rature après tout.
Non. Oui, tout à fait. Au départ, oui. Après, peut-être une erreur est devenue une faute. Mais de toute façon, la charte d'éthique qui a été signée de Singapour par le CNRS en 2012, vous êtes bien placé pour le savoir, on dit que les chercheurs doivent communiquer rapidement et ouvertement leurs résultats pour en établir la propriété intellectuelle et l'antériorité.
Tout à fait.
Et si je ne me trompe pas, mais ça vaut rien, hein, soit clair, la propriété propriété intellectuelle de la découverte du spécimen et de Aude Bergeret et de Roberto. Deuxième point, les chercheurs doivent informer l'autorité responsable de tout soupçon de manquement à l'intégrité, incluant la fabrication de données, la fraude, le plagiat ou toute autre conduite irresponsable, susceptible de brânier, etc.
Je pense que vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu.
Moi, j'allais dire de remettre une pièce dans la machine.
Je pense qu'Axel,
vous allez devoir refaire un nouvel épisode avec
Michel
Brunet,
qui, je pense, ne va pas forcément apprécier que vous attribuiez la propriété intellectuelle de la découverte de l'os de Toumaï. Mais ce n'est pas moi d'en juger.
C'est une opinion.
Voilà. Bon. Alors, suite au prochain numéro, Axel.
Et Michel Brunet, il faut le rappeler, a promis une publication sur le fémur de Toumaï. Roberto Macchiarelli, vous avez révélé l'affaire. Est-ce que vous êtes satisfait ? Votre mission est terminée. En deux mots, s'il vous plaît.
Oui. Okay. Ma mission est terminée. J'ai essayé de débloquer une situation très embarrassante au niveau international. C'est aux collègues de Poitiers, qui sont compétents, de publier et de porter à la lumière, et d'ouvrir un débat, un véritable débat scientifique.
Merci Roberto Marcarelli et Aude Bergeret d'être venus apporter votre éclairage sur cette polémique autour de ce fémur et de sa possible appartenance à l'espèce de Toumaï. Et Axel Villard, à la semaine prochaine.
À lundi.
Dans un instant, on s'intéresse aux effets de la musique sur notre corps et notre cerveau pour apaiser les mœurs. C'est sur France Inter, dans le club de la tête au carré. C'était Duran Jones, Smile sur France Inter.
La tête au carré. Le Club sur France Inter.
La tête au carré en compagnie de la physicienne Catherine Bréchignac, de l'écrivain David Val, de l'anthropologue et ethnomusicologue Victor Stoichita et d'Aline Richard, journaliste à The Conversation France. Aline, on rappelle le principe de cet excellent site où tous les articles sont complètement en accès libre. Ce sont les chercheurs qui écrivent directement.
Absolument, absolument. Conversation France est un site collaboratif de partage des savoirs, comme on dit, où effectivement tous les chercheurs et universitaires qui peuvent être affiliés à une institution sont invités très chaleureusement à expliquer leurs recherches, à donner des analyses. Attention, pas des opinions comme certains sites. On veut des analyses, on veut des choses pédagogiques. Et là, on a un texte ce matin sur le site sur musique et neurosciences, ouais. Musique et influence sur le cerveau humain, sur le corps humain, de la part de Victor, qui est anthropologue et musicologue.
Ethnomusicologue, s'il vous plaît. L'article s'intitule « Les ondes sonores nous influencent-elles vraiment ?» Et c'est vrai qu'il y a ce doute, hein, parce qu'on se rend bien compte que la musique, on n'y est pas insensible, que ça joue sur notre humeur, que ça joue sur ce que l'on est. Mais jusqu'à quel point ? C'est toute la question.
Mais oui, jusqu'à quel point ? Et on se rend compte... Alors, c'est un sujet qui fait réfléchir depuis longtemps. C'est... aussi bien en Occident et dans d'autres sociétés. C'est un sujet qui, en Occident, est le fruit de réflexions philosophiques au départ, puis scientifiques ensuite. Les musiciens, évidemment, y réfléchissent beaucoup aussi. Mais quand on descend un petit peu la perspective et qu'on considère d'autres sociétés, on voit que, par exemple, les dimensions thérapeutiques de la musique sont très souvent utilisées, les dimensions rituelles, donc d'efficacité de la musique qui va faire des choses, et parfois avec l'idée qu'elle va faire quelque chose directement au corps des personnes. Et l'apport, comme je vous le disais, de l'anthropologie là-dedans, c'est-à-dire que par rapport aux recherches en neurosciences, par exemple, les anthropologues sont peu capables finalement de dire quelle région du cerveau ça s'allume, s'active ou pas, quels neurotransmetteurs sont impliqués. On s'appuie pour ça sur les recherches des scientifiques européens. Mais en revanche, il est assez intéressant de mettre ces recherches en perspective avec ce que nous disent des gens d'autres sociétés, d'autres cultures sur les effets qu'ils ressentent de la musique ou les effets qu'ils attribuent, ce qu'ils entendent faire avec la musique.
Alors, par exemple, des questions très concrète que vous vous posez, est-ce que de façon mécanique, quand on écoute une musique, notre corps entre en résonance avec la musique que l'on est en train d'écouter ?
Et en fait, c'est une question, c'est une hypothèse qui est étrangement persistante et qu'on retrouve en fait dans plusieurs sociétés et dans la nôtre qui est étrangement persistante depuis, on la trouve en fait dans les premiers textes de Platon, dans les lois, l'idée que l'âme est un principe en mouvement et donc par des mouvements extérieurs, le rythme musical va pouvoir influencer le rythme de l'âme et donc du coup, par exemple, soigner des gens atteints de démence, de possession, ou bien endormir les jeunes enfants. Par exemple. Mmh. Et cette idée-là se retrouve en fait jusque... Alors il y a différentes étapes, mais elle se retrouve jusqu'au XXe siècle. Ouais. Et peut-être parce qu'elle est basée sur un constat empirique au fond que chacun peut faire partout, c'est que vous avez un corps qui vibre d'un côté... Et par résonance, il peut entraîner la vibration d'un autre corps ailleurs. Et ça, c'est quelque part, y a un côté un peu magique là-dedans, dans cette résonance par sympathie. Et sur cette base-là, on élabore beaucoup de théories de l'action des sons et de la musique.
Alors par exemple, si on écoute un morceau de techno ou de house comme celui-ci... Est-ce que, ça c'est une idée que l'on a, mais est-ce que c'est vrai que les battements de notre cœur vont entrer en résonance? Alors là, on est sur du 130 battements par minute, je crois, alors qu'un cœur, en moyenne, on est autour de 70 battements par minute. Alors, est-ce que là, on va accélérer les pulsations cardiaques en écoutant une musique comme celle-ci? Les auditeurs ont reconnu Get Down de Paul Jones.
Alors, c'est une question que des chercheurs se sont posées. Donc, c'est une idée qui circule notamment dans les milieux techno. L'idée que le battement de la techno, le battement qui ressemble un petit peu au battement cardiaque et qui est un peu dans les mêmes fréquences parfois. Donc, il y aurait une interaction. Et des chercheurs se sont posés cette question à plusieurs reprises, en fait, au long du XXe siècle. Les derniers en date, à ma connaissance, c'est l'équipe du professeur Bernardi, une équipe conjointe italienne et britannique, qui, ce sont des cardiologues, qui ont publié ça dans une revue revue de cardiologie, qui mesure donc la fréquence cardiaque et respiratoire de différentes personnes pendant qu'elles écoutent différents types de musique à différents tempos. Et il constate une chose assez étonnante. Il constate que effectivement il y a une interaction quand on écoute une musique d'un tempo plus élevé. Le cœur
s'accélère,
mais ce qu'ils constatent, ce qui est vraiment étonnant alors pour un anthropologue, c'est que même les gens qui n'aiment pas la musique qu'ils écoutent seraient sensibles à cet effet-là.
Ah oui.
Alors, c'est-à-dire que même si vous n'aimez pas la techno...
On n'est pas obligé d'apprécier pour avoir un effet sur ce que...
Pour avoir un effet. Alors, c'est vraiment étonnant parce que l'intuition nous dit aussi qu'on peut se laisser entraîner ou pas par une musique et que, voilà, on n'est pas obligé. Cet effet mécanique est un peu étonnant. C'est une expérience qui, à ma connaissance, n'a pas été beaucoup reproduite. Donc, c'est pas un résultat qu'il faut prendre avec peut-être certaines précautions, mais qui est intéressant.
Alors, il y a une autre expérience amusante. Alors là, on est sur les animaux. Là aussi, on peut pas savoir... les goûts musicaux des animaux, mais c'est au Japon, je crois, on a fait écouter très précisément ce morceau de Mozart à des souris. Voilà. A priori, c'est plutôt apaisant, en tout cas pour moi en tant qu'être humain. Je ne suis pas dans la peau d'une souris, mais je trouve ça plutôt apaisant. Quel effet ça a eu sur ces souris?
Donc les chercheurs voulaient tester, voir si les souris étaient sensibles à la musique et notamment si elles produisaient davantage de dopamine en écoutant de la musique. Ça, c'est la production de dopamine et l'activation de ce qu'on appelle le système de la récompense, qui est un système qu'on partage les humains et d'autres animaux, qui apparaît très, très tôt dans l'évolution humaine. C'est l'activation de ce système lorsqu'on écoute de certaines musiques, pour certaines personnes du moins, c'est quelque chose qui avait été montré qui a été assez bien montré chez l'humain, voilà. Et on a voulu voir si ça marchait chez les souris. Donc, les chercheurs ont fait écouter. Alors, c'est des souris âgées de 12 semaines, exactement, donc quand même assez jeunes. Et elles écoutent 2 heures par jour, ça en boucle. Pendant un temps, je ne sais plus lequel, après quoi on analyse ce qui se passe dans leur cerveau et les chercheurs ont constaté qu'il y avait effectivement davantage de dopamine dans le cerveau des souris qui écoutaient de la musique que dans celui des souris qui n'avaient pas écouté
de musique. Aline, Richard.
Oui, alors il y a quelque chose aussi dans l'article de Victor encore plus incroyable.
Ouais.
Alors c'est sur les carpes, les carpes, les poissons, à qui on fait écouter de la musique et qui grossissent plus vite que celles qui n'ont pas de musique.
Oui.
Ça c'est quand même extraordinaire. J'ai lu la publication. C'est vraiment de la science.
C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que ces études ont été faites plusieurs fois ou est-ce qu'elles ont été reproduites? Est-ce que ce sont des résultats reproductibles?
Alors, en l'occurrence, c'est des études qui sont a priori sérieuses et publiées donc avec toute la rigueur scientifique qu'on peut attendre, donc avec des groupes de contrôle, des questions de validation et d'analyse tout à fait sérieuses.
Mais comment fait-on écouter de la musique aux poissons?
Alors, c'est une bonne question. On leur met un diffuseur en fait au-dessus de leur bocal, juste un peu au-dessus de l'eau. Et en l'occurrence, ces carpes-là, alors c'est une équipe indienne qui a fait l'expérience et on leur a fait écouter un raga indien, donc joué au violon. Pareil, ils en écoutaient 3 heures par jour. Il y avait 2 bocaux, des carpes qui écoutaient la musique, d'autres qui ne l'écoutaient pas. Et alors les chercheurs constataient que, par exemple, quand il y avait la musique, les carpes se rassemblaient en dessous du diffuseur et semblaient, je ne sais plus quelle est la phrase exacte de l'article, mais semblaient écouter avec attention.
Enfin, ah oui.
Voilà. Et donc on a constaté qu'elles grossissaient plus vite que les carpes qui n'avaient à écouter. Elles avaient un autre stimulus, les autres carpes. Donc elles avaient du son, mais pas de la musique. Voilà. Et après un certain temps, on a interverti les carpes, on les a changées de bocal et on a constaté que celles qui n'avaient pas eu de musique, donc qui avaient grossi un peu moins vite, se sont mises à grossir plus vite.
Alors, c'est passionnant. Pour en savoir plus, il faut lire l'article. On n'a pas le temps d'évidemment tout dire sur ce sujet. Les ondes sonores nous influencent-elles vraiment? Point d'interrogation. C'est à lire donc sur le site de The Conversation, theconversation.fr. Merci Victor Stoichita et Aline Richard. Suite des discussions du club des Têtes au Carré dans un instant. Comment se construit le savoir de génération en génération? On en parle avec la physicienne Catherine Bréchignac.
Je me réveille avec entrain, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je tonne. J'habite au 1 de la rue des douches, y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: dégrouille-toi, donne-moi du nougat. Dégrouille-toi, donne-moi du nougat. Je dis: je vais vous en chercher. C'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de plat. J'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier. Je traverse la ville à pied en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat.
Brigitte Fontaine avec Mousse et Hakim, le nougat sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Le club des têtes au carré en compagnie de l'écrivain David Val, de l'ethnomusicologue Victor Stoichita, Aline Richard de The Conversation France et de Catherine Bréchignac, physicienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Vous avez été directrice, on l'a rappelé, puis présidente du CNRS et vous venez de publier L'irrésistible envie de savoir aux éditions Cherche Midi. Alors votre livre, c'est vraiment un hommage aux générations de chercheurs qui ont siècle après siècle édifié le savoir de l'humanité. C'est aussi un éclairage sur la façon dont se fait la science.
Oui, c'est un éclairage de la façon dont se fait la science parce que des livres sur l'histoire des sciences, il y en a eu beaucoup, et il y en aura encore sûrement. Et là, j'ai voulu montrer comment se construisait la démarche scientifique. En fait, lorsque l'on regarde un peu l'histoire des hommes, alors on ne va pas aller aussi loin que le fémur de tout à l'heure, mais regardons à peu près à partir du moment où l'homme a commencé à utiliser le feu, c'est-à-dire entre 500 et 300 000 ans, et puis ensuite il s'est mis à peindre sur les cavernes, les grottes des cavernes, 30 000 ans, il y a 6-7 000 ans, c'était l'invention de l'écriture. Et puis il y a 2500 ans, c'était la logique avec les Grecs et les mathématiques et la philosophie. Et il n'y a que 500 ans que, avec Galilée, on a eu vraiment la démarche scientifique, c'est-à-dire la comparaison entre une théorie, un modèle et une expérience, c'est-à-dire mettre des chiffres derrière les observations, essayer de les comprendre et avancer comme ça. Et en peu de temps, puisqu'en 500 ans, on a eu un accroissement de la connaissance absolument gigantesque, fait par les hommes et les femmes successivement. Et on est arrivé aujourd'hui avec une croissance très forte de cet accroissement de la connaissance et avec, je dirais, et ce qu'il faut vraiment éviter, une crainte de la société vis-à-vis de la science. Et peut-être ce qu'il faut surtout éviter, c'est la cassure et la fracture entre ceux qui savent et ceux qui n'ont pas appris.
Ouais. Alors il y a des exemples très concrets dans votre livre, notamment cette notion d'atome. C'est très intéressant de voir que finalement elle est là depuis longtemps, dans différentes cultures, dans différentes civilisations, et qu'elle se transforme au fur et à mesure qu'on découvre, qu'on comprend.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est la question que s'étaient posée les Indiens d'ailleurs et les Grecs de l'Antiquité, c'était de savoir si on prenait un morceau. Alors pour les Indiens, c'était un morceau de nourriture. Pour les Grecs, c'était un morceau de matière. De les casser en petits morceaux, de les casser en deux, en quatre, etc. Jusqu'où va-t-on? Jusqu'où va-t-on? Et donc là, comme on ne pouvait pas le savoir, il y avait deux théories, deux hypothèses. Je dirais pas deux théories, deux hypothèses. L'une, c'est la matière est divisible à l'infini. Et l'autre, non, il y a un atome. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'en sanskrit, comme en grec, le mot est très très voisin, qui est insécable, qui dit qu'on ne peut pas descendre en dessous. Et on a mis 2500 ans avant de le voir. De le voir. Et encore, à la fin du 19e siècle, Berthelot disait on ne le verra jamais, donc il n'existe pas. Enfin, c'est quand même extraordinairement intéressant de voir cette quête de l'atome avec les chercheurs qui ont fait des expériences les unes après les autres, etc.
Et comme souvent avec les sciences, au moment où on touche au but, ça se dérobe, c'est-à-dire que cet élément qui était censé être la plus petite unité, ce qui était insécable, finalement, on peut le couper.
Et voilà, et on a l'énergie nucléaire qui pose d'autres questions, mais enfin, on en est là. Ouais. Donc, en fait, la science est toujours en train d'avancer. De
avec cette notion qui vous tient à cœur et qui tient aussi beaucoup à cœur à un certain Jean-Claude Amezen, qui officie sur cette antenne tous les samedis, sur les épaules de Darwin, cette formulation exactement. Sur les épaules des prédécesseurs, on la doit pas à Jean-Claude Amezen, mais à Newton.
Absolument. Et même avant Newton, puisque c'était déjà dans des textes plus anciens où on disait, je n'ai pas que finalement, c'est pas quelqu'un qui... les personnes n'ont pas des visions comme ça, c'est parce qu'elles se sont sur les épaules des géants. Et sur ces histoires d'épaules des géants est intéressante parce que ça veut dire que au fond, la science se construit par des hommes et des femmes successivement. Mais si certains d'entre nous n'existaient pas, d'autres auraient existé et on aurait quand même trouvé. Si Einstein n'avait pas existé, on aurait quand même la relativité.
Ça, vous en êtes sûr? C'est pas une histoire d'homme, c'est pas une histoire de génie, enfin, c'est une aventure collective.
Non, c'est une histoire d'homme et de femme, c'est sûr, mais c'est pas une histoire de génie.
Il y a des moments. Il y a des moments pour les
découvrir. C'est une histoire, c'est des histoires d'imagination et de rupture. Et de rupture quand on découvre quelque chose que l'on ne connaissait pas avant.
La somme de connaissances accumulées permet d'arriver.
De connaissances, et puis on a une rupture, on a eu la rupture au niveau de la physique quantique, on a eu la rupture au niveau de l'espace et du temps, et on a maintenant la rupture au niveau du vivant, puisqu'on est capable maintenant de se transformer, de changer. Ça, c'est une rupture énorme qu'on est en train d'avoir actuellement dans la société. C'est ce que je dis dans mon livre.
Un exemple très caractéristique et très emblématique. Vous parlez de cet ADN que l'on a fini par découvrir.
Tout à fait.
Et on ne fait pas que comprendre. Au bout d'un moment, quand on a suffisamment compris.
Ouais, on joue à l'apprenti sorcier.
On transforme.
Ouais, bien sûr.
On comprend les règles du jeu pour ensuite se mettre à jouer à un jeu qui peut être dangereux.
Oui, et c'est ça qui est irrésistible chez l'homme.
Aline, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, j'avais une question à vous poser, Catherine. Je me demande si aussi, quand il y a une découverte majeure qui s'impose, est-ce que c'est aussi lié au moment historique de cette découverte?
Oui.
Il y a quand même quelque chose de dynamique dans les sociétés humaines. Il me semble que quand on découvre, quand on découvre le micro-vivant avec Pasteur, il se passe quelque chose dans les sociétés.
Oui, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir accumulé un certain nombre de connaissances petit à petit, avec des petits pas, avant de pouvoir tomber sur une rupture. Je dirais que la découverte est presque prête, quoi. On va la voir. Donc après, ça se joue à quelques dizaines d'années. Mmh. Et là, on a vu donc cette rupture sur le vivant qui est fondamentale, mais on en a une autre, alors qui est très très importante pour nos sociétés, c'est la communication. La communication, c'est une des clés des sociétés. Les sociétés sont basées sur la communication, les hommes se communiquent entre eux. Donc on a eu d'abord la parole, puis après on a eu l'écrit, et puis ensuite on a eu les moyens de communication extrêmement rapides, et aujourd'hui on a une communication quasiment instantanée. Donc avec une hyper-connectivité énorme qu'il va falloir, on change d'espace, et donc il va falloir qu'on réapprenne à vivre dans cet espace hyper où la communication est hyper rapide.
Ça change aussi une façon de faire la recherche, ce nouveau contexte que vous décrivez?
Oui, ça change une façon de faire la recherche. Je dirais que ça ne change pas la méthode la démarche scientifique elle-même. Mais ça change beaucoup la manière de faire la recherche. La recherche maintenant, elle est faite d'abord beaucoup plus en équipe qu'avant. Avant, il y avait beaucoup de chercheurs qui étaient un peu isolés. Maintenant, plus personne n'est isolé. Ce sont des équipes qui sont les unes avec les autres ou contre les autres avec une, parce que c'est toujours une compétition entre collaboration et compétition. L'un fait qu'on a suffisamment de personnes et l'autre veut dire qu'on va vite. Mais cette façon de travailler est une façon de travailler qui a changé par la dynamique de la connaissance et aussi par nos moyens technologiques. C'est au fond, la science et la technologie, c'est les deux seuls qui font progresser l'humanité, et ça, il faut le savoir et donc il faut le maîtriser. Et c'est pour ça que je termine par le fait que, puisqu'on a eu tout ce temps passé, mais l'homme n'est pas là depuis si longtemps tel que nous le vivons. Il reste, si on prend soin de notre planète, ce qui n'est pas évident, mais enfin, espérons, plus d'un milliard d'années à vivre sur la Terre, alors prenons le temps de penser.
C'est le mot d'ordre. Il ne faudrait pas oublier de prendre le temps de réfléchir.
Penser. Voilà, de réfléchir, d'avoir l'esprit critique, de se reposer des questions, ouais. De revenir sur des découvertes et de les approfondir.
Et pour s'en poser des questions et pour les approfondir, il y a donc votre livre « L'irrésistible envie de savoir, bâtisseur de science ». C'est aux éditions Cherche Midi. Et c'est signé Catherine Bréchignac, qui reste avec nous pour la suite de ce club des Têtes au Carré. Et si la notion de sale et de propre était avant tout culturelle, dans un instant, on s'intéresse aux déchets et à ce qu'ils disent de notre époque et de notre civilisation dans la Tête au Carré sur France Inter.
Tu es un leurre, une illusion d'optique, juste l'odeur de la passion chimique. Pour une sirène, à quoi bon? J'ai un avion à la maison à réaction. Bats les pattes, fais demi-tour, joli tambour. Je porte un casque anti-amour sur les oreilles. Descends de ta licorne rose, tu vas te casser quelque chose sur moi. Seul sur le tard et sur le tas, à résister à la torture, à la morsure, à laisser siffler les pétards, à protéger sous une armure mon petit cœur pur. Bel avenir si d'aventure typique, tu enjambais ma clôture électrique. J'ai passé l'âge de faire l'andouille, de toute façon tu repartirais en citrouille et en chaussons. À midi, reviens me voir. À midi, on m'a dit, j'aurais changé d'avis. Faut voir. À midi, reviens me voir. À midi, on m'a dit, j'aurais changé d'avis. Pas ce soir.
À midi, on m'a dit, c'était Albin de la Simone sur France Inter.
La Tête au Carré, le club.
Autour de la table du club, Catherine Bréchignac, physicienne, Victor Stoichita, ethnomusicologue, Aline Richard, journaliste à The Conversation, et David Wall, écrivain et dramaturge. Vous présentez à la Maison de la Poésie un spectacle intitulé « Sale discours ou géographie des déchets » pour tenter de distinguer au mieux ce qui est propre de ce qu'il ne l'est pas. C'est votre quatrième causerie. Hein. Oui. Quel est le principe de ces causeries? Comment vous choisissez les thèmes?
Alors les causeries, ce sont des textes que j'écris à partir d'un thème préalablement choisi, à partir d'une enquête durant laquelle enquête assez longue, durant laquelle je vais rencontrer des spécialistes, des scientifiques, des philosophes, des théologiens, des historiens, et je vais partir à la chasse au trésor. Je vais amasser un tas de faits, de faits historiques, scientifiques, oui. pas encore connus, souvent drôles, oui. souvent incroyables, tous ouais. vrais. Et à partir de là, je vais les interpréter, les mettre ensemble, faire une sorte d'écriture, parce que ça, je ne suis pas un scientifique, hein, ouais. je suis un auteur, un écrivain, et donc je vais essayer comme ça de tisser un lien entre ces différentes strates et domaines de savoir et faire surgir au fur et à mesure une dimension inattendue de ce sujet que je m'étais proposé de traiter.
Et en l'occurrence, les déchets. Pourquoi les déchets ?
Les déchets parce que bon, c'est un sujet qui m'intéresse, le rapport à l'environnement, surtout en ce moment. C'est important d'en parler et d'échanger autour de ça. Et puis parce que voilà, c'est un sujet, je me suis dit est-ce que c'est possible d'arriver à faire rêver à partir d'une poubelle ? Voilà,
oui,
c'était un bon défi.
C'est un bon défi, mais vous y arrivez. Oui. Vous y arrivez, c'est ça qui est formidable. Ça dit des choses, une civilisation, les déchets qu'elle produit.
C'est même par les poubelles et les déchets, enfin par le déchet qu'on connaît une civilisation. Alors, on connaît la civilisation romaine par les ruines de ses villes et par ses décharges, on connaît le Moyen-Âge, on connaît toutes les époques historiques par ce que les hommes ont laissé derrière nous. Alors, à notre époque où on laisse énormément de choses, on le sait, qu'est-ce que cela dit de l'homme du XXIe siècle ? Qu'est-ce que cela dit de nous ? Le déchet, c'est le miroir de l'intimité humaine. Mmh. Et donc, c'est très poétique en vérité.
Oui, c'est vrai. Mmh. Une part de poésie. Il y a beaucoup d'humour aussi avec ces anecdotes historiques qui nous poussent à réfléchir. J'en prends une au hasard. Louis VI dit le gros qui a eu maille à partir avec des cochons. Expliquez.
Oui, c'est comme ça que l'histoire commence en fait, parce que avant, les cochons, qui ne ressemblaient pas du tout d'ailleurs aux cochons qu'on connaît maintenant, se promenaient librement dans les rues comme des chiens errants et étaient souvent des éléments incontrôlables. Et dans les villes médiévales, ils se promenaient en meute cherchant à manger, parfois assez violemment, et le fils du roi Louis VI le Gros, le jeune Philippe, un jour revenant de la chasse et renversé par un cochon, il va mourir. Et là, Louis VI va prendre une décision qui est d'interdire aux propriétaires de cochons de les laisser bagnoder librement dans les rues et de les tenir d'une certaine manière. Alors, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas dire quoi, il faudra voir le spectacle pour voir, mais en tout cas, ce qui était très intéressant pour moi, poétiquement, c'est qu'on pourrait penser qu'en ayant purgé la ville d'un élément sale, contagieux, qui en plus apportait des épidémies, donc quelque chose d'assez polluant, on allait rendre la ville plus propre. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est passé, puisque la ville, sans ses cochons qui étaient sales, mais qui nettoyaient l'environnement, est devenue une véritable porcherie, sans ses cochons.
Voilà.
Et je me suis dit, alors le sale et le propre, finalement, ce sont des notions très relatives.
Ah, ce sont des notions très relatives, et qui évoluent avec le temps. Par exemple, le nucléaire, il n'y a pas si longtemps, nous était présenté différemment.
La lumière des plus récents travaux atomiques qu'ont été conçus les produits Vichy, source de beauté.
Le radium au service de la beauté par la santé de la peau. Des éléments curatifs incorporés dans une crème de beauté telle que la crème embellissante et curative Thoradia à base de thorium et de radium selon la formule du docteur Alfred Curie.
Alors, ne le faites pas chez vous, hein, on en est revenu de cette idée de crème de jour à base de radium. Mais effectivement, le nucléaire a été associé au sein...
Alors, la radioactivité a été... Oui, parce que la radioactivité, vous savez, au début, la radiothérapie, là, ça a effectivement, en plus, ça a guéri aussi. En tout cas, la radioactivité a guéri, mais alors il y a certains éléments qui étaient extrêmement dangereux. Le radium, certaines crèmes, effectivement, ont mis, soi-disant, des éléments, enfin, un peu de radium dans leur composition pour effacer les rides. On sait qu'il y avait une boisson radioactive, hein, le Raditor qui a causé la mort du sportif qui en faisait la réclame. Mmh. Hein, ces eaux ont fondu, irradiées par la boisson. Donc effectivement, oui, il y a toujours la recherche, parce que l'énergie dont vous parliez, Madame Brichignac, est toujours associée aussi à une sorte d'élixir de jouvence qui va nous débarrasser peut-être de la mort. Et du coup, oui, la radioactivité n'a pas échappé à ça.
Rapidement, Catherine Brichignac.
Oui, non, la radioactivité, tout d'abord, elle est naturelle. Elle existe de toute façon. Vous allez en Bretagne, vous vous mettez à côté d'un rocher en granit et vous avez de la radioactivité. Elle est naturelle avec une certaine dose. Après, on a trouvé la radioactivité artificielle et on l'a utilisée et elle a des bons côtés puisqu'elle a fait des soins. Il y a eu des cancers qui ont été guéris par ça. Et puis, bien sûr, elle a aussi des travers. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand vous découvrez quelque chose, vous avez le bon côté et le mauvais.
Mais ce qui est intéressant, et vous ne manquez pas de le souligner hein, dans votre spectacle, c'est à la fois, on parle d'énergie propre, parce que justement, à l'heure du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire n'en produit pas. En même temps, on a ces déchets d'ultra longue durée dont on ne sait que faire.
Ben parce que c'est pas propre ou sale, c'est propre et sale. Bien souvent, c'est comme ça que les choses sont. Et du coup, c'est vrai que le nucléaire représente un peu ce paradoxe de nos sociétés. Oui. Mmh. Le déchet nucléaire, par exemple, qui est produit par les centrales, bon ben c'est un déchet qui à l'heure de l'économie circulaire et du recyclage, ben n'est soluble absolument pas dans cette solution-là. C'est un déchet dont on ne peut rien faire. Donc ça pose la question, effectivement.
Sur cette notion du propre et du sale, quelques exemples. Madame de Sévigné qui conseille à sa fille de se rincer la bouche avec de l'urine pour entretenir son hygiène buccale. Bon, aujourd'hui, on trouve le conseil un peu plus saugrenu.
On le ferait avec moins de plaisir.
Je ne sais pas si elle le faisait avec énormément de plaisir. Dans l'Antiquité, des excréments qui étaient aussi utilisés comme médicaments sous forme de décoction. Et puis, vous terminez quand même votre spectacle sur une note un peu plus grave, après nous avoir fait réfléchir sur notre rapport à l'environnement.
Mais après, c'est un texte, encore une fois, c'est un texte poétique, même si ce que je raconte subjectivement, je le crois, mais effectivement, j'imagine volontiers au cours de ces recherches qu'il y a vraiment un rapport entre la pollution, entre notre impact sur l'environnement et notre instinct de survie et notre peur de la mort et notre désir d'éternité. Et ça n'est pas un hasard si aujourd'hui la mort est de plus en plus tabou, que le monde devient de plus en plus confisqué à notre immédiateté, à notre propriété.
Merci David Valle.
Je tiens une dernière chose. Le spectacle est mis en scène par Pierre Guillois.
Très bien. Et moi j'ajoute sur ce spectacle intitulé Le sale discours, qu'il se joue donc à la Maison de la Poésie, 12, 26 et 27 février, et à Creil le 22 mars. On va mettre tout ça en ligne sur le site de La Tête au Carré. Et le texte du spectacle est publié aux éditions Premier Parallèle. Merci aussi donc à Catherine Bréchignac, Victor Solitchka, je vais y arriver, et Aline Richard de nous avoir accompagnés pour ce club des Têtes au Carré. Et dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidard aux commandes de La Tête au Carré, juste après le flash. Vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour Affaires Sensibles, la fiction, 20 ans et 1 millième de seconde.